Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous demander comment vous allez. Est-ce que tu peux demander à ta voisine, à ton voisin, comment vas-tu ? Cette question est importante. Parce que comment pourrions-nous prendre soin les uns des autres si nous ne connaissons pas la réponse à cette question ? Comment pourrions-nous prendre soin les uns des autres si nous ne connaissons pas la réponse à cette question ? Comment vas-tu ? Aujourd'hui, dimanche de Pentecôte, nous nous rappelons que le Seigneur Jésus a réalisé sa promesse de répandre son esprit sur celles et ceux qui placent leur foi en lui. Et ainsi est née l'Église il y a 2000 ans, et nous vivons encore cette réalité aujourd'hui, puisque nous sommes rassemblés cet après-midi. Oui, l'Église a à peu près 2000 ans. C'est, si vous voulez, un jour d'anniversaire. Et nous n'oublions pas que notre assemblée n'est qu'une toute petite partie de l'Église universelle qui est composée de tous les croyants. Nous ne sommes qu'une toute petite partie dans cette Église. Et à notre échelle, nous ne voyons pas tous les contours de ce que représente cette Église universelle. Nous ne savons pas à quoi elle ressemble. Seul le Seigneur connaît les membres qui la composent, parce que c'est le Seigneur qui les a choisis. Et il existe donc, particulièrement quand on regarde à la Pentecôte, il existe ce lien, ce rapport entre le Saint-Esprit et l'Église. Il y a un lien entre le Saint-Esprit et l'Église. Et voilà une première question pour vous, enfin une deuxième, puisque tout à l'heure c'était comment ça va. Deuxième question, comment savons-nous que le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous ? Comment savons-nous que le Saint-Esprit est en train d'agir parmi nous, maintenant ? Comment est-ce que nous nous en rendons compte ? Eh bien, le texte d'aujourd'hui répond à cette question. Un mot d'abord sur l'église de Corinthe, puisque nous sommes dans cet épître aux Corinthiens. Alors vous avez une petite carte, et puis un endroit qui est entouré, c'est Corinthe. Et il me semble que, Samuel, tu étais à Corinthe, il y a plusieurs semaines. Donc Corinthe, en Grèce. Et l'apôtre Paul est le fondateur de cette église de Corinthe. Et comme avec d'autres églises, eh bien il a cette habitude d'entretenir une correspondance avec ces chrétiens qu'il connaît bien. Malheureusement, cette église connaît bien des problèmes à Corinthe. Et il est parvenu aux oreilles de Paul qu'il y avait des divisions parmi les membres. Dans cette communauté, certains se croyaient supérieurs aux autres. Dans cette communauté, ils toléraient facilement l'immoralité sexuelle. Ils se faisaient des procès entre eux, mais devant des non-croyants. On lit également qu'ils ne prenaient pas au sérieux le repas du Seigneur. Que de problèmes dans cette église. Alors, aucune église est parfaite, la nôtre aussi a des problèmes, mais celle de Corinthe, voyez un petit peu déjà le tableau. Et évidemment, dans 1 Corinthiens, eh bien, Paul leur écrit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas ce qui est attendu de la part de ceux qui composent l'église. Et nous voyons alors une église qui a tellement besoin d'être encore enseigné sur ce que le Seigneur attend d'eux. Et dans cette même lettre, eh bien, Paul va répondre à des questions que les Corinthiens lui ont fait parvenir par écrit. Par exemple, au chapitre 7, Paul va parler du mariage, parce que les Corinthiens se demandaient qu'est-ce qu'il en était du mariage entre chrétiens. Au chapitre 8, eh bien, il est question des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'il faut en consommer ou pas ? Et puis, dans notre chapitre 12, où est tiré notre texte, eh bien, il s'agit de la question des choses spirituelles. Comprenez, des choses qui sont en lien avec le Saint-Esprit, les choses spirituelles. Et dans ce chapitre 12, l'intention de Paul est claire. Il veut instruire les chrétiens de Corinthe. Il veut les instruire à quel sujet ? Eh bien, au sujet de ce que le Saint-Esprit fait, au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant et dans la vie de l'Église. Et c'est là qu'on retrouve notre sujet sur le Saint-Esprit et l'Église. C'est d'ailleurs la thématique, cette œuvre du Saint-Esprit, c'est cette thématique que nous allons aborder tout au long de ce mois de juin. Voyons à présent comment Paul parle de ces réalités spirituelles. D'abord, il fait mention des chrétiens spirituels, versets 1 à 3. Et bien sûr, il faut peut-être déjà définir ce qu'on entend par le mot spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on dit que quelqu'un est spirituel ? Alors peut-être que nous comprenons de plusieurs façons. Pour certains, cela veut dire que quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a de l'esprit, quelqu'un qui manifeste une forme d'intelligence vive et mordante, si je reprends une définition canonique. Donc quelqu'un qui a plutôt de l'esprit, qui est plutôt intelligent. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un de spirituel. Mais ce n'est pas de cela dont Paul parle. Autre définition, peut-être plus courante dans nos églises, eh bien, quelqu'un de spirituel, c'est une personne qui a une vie pieuse, une vie consacrée au Seigneur, comme si c'était en fait dans l'Église une catégorie à part. C'est les gens spirituels. Eh bien, Paul ne parle pas de cela non plus. Parce que ce dont il parle ici, quand il emploie le mot « spirituel », eh bien, c'est la troisième définition. C'est ce qui est en lien, en rapport avec le Saint-Esprit. Quand il utilise l'adjectif « spirituel » dans ses textes, il parle de ce qui est en rapport avec le Saint-Esprit. Je relis avec vous les premiers versets. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Pour des Corinthiens qui, de toute façon, ne se voyaient pas entre eux sur un même pied d'égalité, il fallait faire une mise au point. Il fallait clairement redire les choses concernant la vie chrétienne. Et Paul rappelle aux Corinthiens quel était leur passé, verset 2. C'était des idolâtres, complètement influencés, complètement entraînés dans l'adoration de ce qui n'avait aucune valeur, c'est-à-dire des idoles muettes. Paul leur rappelle leur passé. Vous étiez de cela. Vous étiez de ces idolâtres qui adoraient des idoles qui ne pouvaient pas parler. Mais depuis qu'ils connaissent Christ, grâce entre autres au ministère de Paul, mais il n'est pas le seul à avoir œuvré dans cette église, depuis qu'ils connaissent Christ, grâce au ministère de Paul, mais grâce surtout à l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien ils confessent que Jésus est le Seigneur. Il y a eu quelque chose qui a changé. Fini les idoles de pacotille. Désormais, le seul Seigneur, le seul vrai Dieu pour les Corinthiens, c'est Jésus-Christ. Imaginez juste un instant la société de l'époque. Une société remplie d'idoles. Des temples partout, des statues partout. Où l'empereur même, à l'époque, demandait d'être reconnu comme Seigneur. Imaginez simplement cette société. Et que dans ce contexte-là, eh bien, déclarer que Jésus est le Seigneur était une vraie prise de position. C'était se démarquer de tous les autres dans la société. C'était une vraie révolution. Et assurément, ceux qui ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et ça, Paul le dit clairement. Si quelqu'un est incapable de reconnaître Jésus comme Seigneur, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais ceux qui confessent que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Esprit Saint au moment de la conversion, au début de leur vie chrétienne, eh bien, dans ce sens, tous les chrétiens sont spirituels. Dans ce sens, tous les chrétiens sont spirituels. Il n'y a pas ceux qui ne le sont pas et ceux qui le sont. Tous les chrétiens sont spirituels, puisque un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec ça? Un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, Paul va être très clair lorsqu'il va écrire aux chrétiens de Rome. Il va leur dire ceci, et de manière très claire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Les Corinthiens étaient divisés, je l'ai dit. Certains se croyaient supérieurs aux autres, plus spirituels que les autres. Ils manifestaient des dons que les autres n'avaient pas et ils s'en vantaient probablement. Eh bien, Paul veut corriger leur regard. Vous n'avez pas à dire que vous êtes plus spirituel que les autres. Toute personne qui confesse que Jésus est Seigneur a l'Esprit de Dieu en lui. C'est une personne spirituelle. Et j'aimerais vous questionner là-dessus. Est-ce que tu reconnais aussi que ton frère, ta sœur, qui sont dans cette église, ont reçu l'Esprit de Dieu? Qu'ils sont des chrétiens spirituels? Est-ce que tu les vois comme ça? Ou bien est-ce que tu te crois, mais secrètement, parce qu'on ne le dit pas ça, est-ce que tu te crois plus spirituel que les autres? Comme si tu avais reçu plus d'esprit que les autres. Mais est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que Dieu n'a pas donné le même esprit à tous? Est-ce que certains n'ont plus que d'autres? Soyons vigilants, mes amis. Le complexe de supériorité ne se retrouve pas uniquement dans notre société. Si l'Église de Corinthe était touchée par ce problème, il est fort probable que les églises d'aujourd'hui puissent l'être aussi. Ton frère, ta sœur sont aussi spirituels que toi, car de Dieu, nous avons reçu le même esprit. Et après avoir précisé cela, l'apôtre Paul parle d'un autre aspect de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Il va parler des dons spirituels, versets 4 à 11. Alors comprenez, vous avez bien compris, l'utilisation du mot spirituel, les dons spirituels, les dons qui viennent du Saint-Esprit. Et nous allons voir dans les versets qui suivent que Dieu a pensé à tout pour son Église. Il a pensé à tout. Verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Alors il est clair hein, qu'il y a de la diversité dans l'Église. Il y a de nombreux services différents, il y a de nombreux ministères différents, d'actes ou d'activités différentes. Et toute cette variété nous vient de Dieu, du Dieu trinitaire. Paul mentionne dans ses versets l'Esprit, au verset 4. Le Seigneur, pour parler de Jésus, au verset 5. Et vraisemblablement, Dieu, pour parler du Père, au verset 6. Nous avons le Dieu trinitaire qui nous est rappelé ici. Et c'est lui qui œuvre dans l'Église. C'est lui qui est la justification de la variété qui existe dans l'Église. Et Paul écrit vraiment et rappelle aux chrétiens de Corinthe que Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Dieu n'est pas inactif quand nous nous rassemblons le dimanche. Dieu ne fait pas rien ou Dieu n'est pas en repos. Mais Dieu agit. Et lorsque les chrétiens exercent leur ministère, lorsqu'ils accomplissent leur service, lorsqu'ils font usage des capacités qu'ils ont reçues de Dieu, c'est la démonstration que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent dans l'Église. Paul le précise bien, c'est le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et je rends grâce à Dieu que le dimanche, nous ayons la possibilité de le voir à l'œuvre, de voir Dieu à l'œuvre, dimanche après dimanche. Et cet après-midi, Dieu agit parmi nous. Ceux qui servent au culte, ceux qui servent auprès des enfants, ceux qui vont tout à l'heure distribuer les éléments de la scène, ceux qui feront le ménage pour nous rendre service, les membres du conseil qui se réuniront après le culte. Tout cela nous montre que Dieu agit parmi nous. Tout cela nous montre que Dieu agit dans son Église. Sinon, d'où viendrait cette activité ? Selon quelle motivation ? Si ce n'est venant de Dieu. Dieu nous donne suffisamment d'amour pour que nous le fassions, surtout pour le ménage, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dieu nous donne suffisamment d'amour pour le faire. Et que celui et celle qui fait le ménage ne se disent pas qu'il n'a pas besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu. Puisque tous les chrétiens sont spirituels. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire le ménage sans le Saint-Esprit ? Le ménage, oui. Alors, je sais bien que notre texte ne parle pas du ménage. Je sais bien d'ailleurs que notre texte ne parle pas de la sono, ni de la louange, ni de l'accueil, ni de l'enseignement des enfants. Mais est-ce que vous pensez que nous puissions faire tout cela sans avoir l'intention de dépendre du Seigneur ? Il y a bien diversité de services et un même Seigneur. Et nous devons nous souvenir de cela lorsque nous nous retrouvons le dimanche. Dieu est à l'œuvre. Et j'ai laissé de côté, exprès bien sûr, un mot dans ce verset. C'est le mot « don ». En français, en fait, il y a une certaine ambiguïté lorsqu'on parle du don. Parce qu'il y a deux sens. Vous pourriez me dire quels sont les deux sens du mot « don » ? Qu'est-ce qu'un don ? Le fait de donner un cadeau, quelque chose qu'on donne ou qu'on reçoit. Ça, c'est le premier sens. Quel est le deuxième sens ? Un talent, une capacité particulière. Par exemple, quand on dit qu'un tel a un talent dans le sport, ou un don dans le sport, un don dans la musique. Voilà les deux sens que nous trouvons dans ce mot « don » en français. Mais je dois le rappeler, et je pense que ça, vous le savez aussi, la Bible n'a pas été écrite d'abord en français. J'espère que tout le monde le sait. La Bible n'a pas été écrite d'abord en français. Et le Nouveau Testament dans notre texte, donc le Nouveau Testament dont notre texte est extrait, a été écrit en grec ancien. Et donc un peu de grec. Le mot charismata, qui est employé ici et qui est traduit par don. Bien sûr, on peut le traduire par don, mais dans quel sens ? Parce que ça ne peut pas être les deux en même temps. En français, on a deux sens. Mais en grec, il se trouve qu'on n'en a pas deux, on n'en a qu'un. Le mot charismata qui signifie don dans le sens de cadeau, dans le sens de faveur, dans le sens de grâce. Donc il n'y a qu'un seul sens qui est possible. Ces dons que nous appelons spirituels et qui viennent du Saint-Esprit sont à comprendre comme des cadeaux que Dieu nous fait. Et puisqu'il est question de grâce, des cadeaux que nous ne méritons pas. Des cadeaux que nous ne méritons pas. Et je n'entrerai pas dans le débat de savoir si ces cadeaux en question désignent des capacités ou bien des ministères. Parce que la question est débattue. Je préfère juste que nous puissions retenir que Dieu a donné à son Église une multitude de cadeaux immérité. C'est ça qu'on doit retenir. Quelle que soit la nature de ces cadeaux. Ce qu'on constate, c'est que Dieu a donné à son Église une multitude de cadeaux que nous n'avons pas mérités. Je n'ai pas mérité d'être pasteur. Et si je suis là devant vous, ce n'est que par la grâce de Dieu. Est-ce que toi aussi, quand tu regardes ton service dans l'Église, quand tu regardes ton ministère, est-ce que tu le vois comme une grâce qui t'a été donnée, comme quelque chose que tu n'as pas mérité ? Est-ce que tu vois ton service comme une grâce. Ou est-ce que tu te dis, mais c'est normal que je serve là, je suis doué. Je mérite ma place là où je suis, dans l'Église. Rappelons-nous de cela. Les dons spirituels se rapportent à des cadeaux. Autre question, est-ce que tu vois ce cadeau comme quelque chose qui est utile pour les autres ? Regardez le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ou dans d'autres traductions, pour l'utilité, pour l'avantage de tous. Et dans tous les cas, l'idée est que la grâce que tu as reçue n'est pas pour toi. La grâce que tu as reçue n'est pas pour que tu te vantes, surtout si ton ministère commence à prendre de l'ampleur. La grâce que tu as reçue est donnée par l'Esprit de Dieu pour que tu serves les autres. Imaginez simplement un excellent pâtissier qui me donne un gâteau. Ou qui vous donne un gâteau, mais on va dire qui me donne un gâteau. Et qui me précise, ce gâteau, c'est pour partager avec les autres. Et voilà que moi, je viens vers vous avec ce gâteau. Et que non seulement je ne partage pas le gâteau avec vous, mais en plus que je vous dis, c'est moi qui l'ai fait. Eh bien, c'était peut-être à peu près comme ça que les Corinthiens se comportaient vis-à-vis des dons qu'ils avaient reçus. Ils ont reçu quelque chose, ils font une démonstration de ce qu'ils savent faire sans servir les autres, et finalement, par le fait de se vanter, ils oublient de reconnaître que c'est à Dieu qu'ils le doivent. Je ne veux pas vanter du gâteau que j'ai, que je n'ai pas fait en fait. Tout comme je ne peux pas me vanter d'une capacité que je ne me suis pas fabriquée tout seul. Dieu m'a donné cela. Les Corinthiens avaient oublié ou ne comprenaient pas l'utilité de ce que l'Esprit leur avait donné. Et Paul veut les instruire à ce sujet. Ils ont reçu un don précieux de la part de l'Esprit et c'est pour le bien de tous et non pas pour leur propre intérêt. Et un peu plus loin, au chapitre 14, nous lisons ceci, 1 Corinthiens 14, verset 12. « Vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, » donc Paul s'adresse aux Corinthiens, « vous qui aspirez donc au don spirituel, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église, les dons qui servent vraiment pour l'Église. » Et bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la liste des dons qui est contenu dans les versets 8 à 10, mais je préfère réserver cela pour un autre message, donc je ne vais pas en parler. Et si certains veulent quand même en discuter avec moi, faisons-le autour d'un café. Mais je vais tout de suite lire le verset 11, qui résume l'enseignement à retenir. Mais toutes ces choses, c'est-à-dire toute la liste qui a été énumérée, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. La diversité est certaine dans l'Église, mais c'est un seul et même esprit qui est à l'œuvre dans tous ses services. Et ça, nous devons aussi nous en rendre compte. Nous faisons des services différents, mais c'est le même esprit qui agit partout. Et si nous n'avons pas tous le même service, c'est tant mieux, parce que de cette manière-là, nous sommes complémentaires, solidaires les uns des autres. Et Dieu en a voulu ainsi dans l'Église. Dieu en fait en sorte de distribuer ses dons de manière à ce que nous puissions dépendre les uns des autres, que nous ayons besoin les uns des autres. Et l'Esprit fait ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Il donne à chacun des enfants de Dieu comme il a envie de donner. L'Esprit est libre, il est souverain, et nous n'avons donc pas de raison de nous vanter de ce qu'il nous donne, ni même d'envier ce qu'il donne aux autres, que ce soit en termes de capacité ou en termes de service, parce que l'Esprit fait ce qu'il veut. Et les Corinthiens devraient le comprendre. Et nous devons aussi le comprendre aujourd'hui. Nous avons vu jusque-là que tous les chrétiens sont spirituels, puisque l'Esprit de Dieu habite en eux. Et c'est ce même Esprit qui distribue dans l'Église une diversité de grâces, de cadeaux qu'on appelle les dons spirituels. Et nous avons déjà commencé à effleurer l'idée que ces dons doivent servir pour les autres. Et c'est là que Paul compare l'Église à un corps spirituel. Versets 12 à 13. Et là, j'aimerais faire une expérience. Alors, certains étaient là hier matin, à la formation sur le culte intergénérationnel, et nous avons fait un jeu que je ne vais pas reproduire ici, pour illustrer la vérité, le thème de l'unité. Mais par contre, j'aimerais quand même avoir 4 volontaires. Oui, Samuel, tu peux t'avancer, juste te mettre là, devant la table. 3 autres volontaires. Oui, il y en a qui connaissent, donc... Vous allez vous mettre en file indienne. File indienne, les uns derrière les autres. Oui, ça mérite une photo. Effectivement, vous allez poser vos mains sur l'épaule, les épaules de l'autre. Ça va, vous êtes bien? Alors, l'idée, c'est surtout de ne pas se détacher. Et donc, vous allez avancer tranquillement vers l'avant. Voilà, on s'arrête. On essaie de reculer. Ouais, c'est pas mal, hein. Et maintenant, si l'un veut aller à droite et l'autre veut aller à gauche, qu'est-ce que ça donne? Et essayez d'avancer comme ça. Ouais, c'est plus dur déjà. Et si, par exemple, Clark, tu baisses tes bras, du coup, là, vous constatez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? La chaîne est coupée. Et surtout, l'idée, c'est que là, on n'a plus un seul corps, mais combien? 2. Donc, on reforme maintenant le corps entier. Un seul corps et plusieurs membres qui avancent ensemble jusqu'à leur place. On peut les applaudir. Gardez cette image en tête. Alors, c'est... On a appelé ça, hier on avait appelé ça la chenille, voilà. Un corps, mais composé de plusieurs membres. À partir du verset 12, pour parler de l'Église, Paul développe la métaphore du corps. Alors, non pas de la chenille, mais de l'être humain. Verset 12, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Avec l'illustration que nous venons de faire, nous comprenons bien l'idée que tous les organes ou tous les membres réunis forment ensemble un seul corps. Et l'apôtre écrit « Il en va de même pour Christ ». Alors, essayons de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. En fait, ce qui est sous-entendu, c'est que Christ a un corps qui est composé de plusieurs membres. Ça, je pense qu'on comprend l'idée. Et la suite du texte nous montre que Paul ne parle pas du corps physique de Christ, mais il parle en fait de l'Église, d'une manière imagée. Et nous avons d'ailleurs à la fin du chapitre 12 cette affirmation. Verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » À la fois le corps dans son ensemble, et chacun en particulier membre de ce corps. Pourquoi l'Église est dite le corps de Christ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Pourquoi appelle-t-on l'Église le corps de Christ? Parce que les chrétiens qui composent l'Église sont unis à Christ, sont liés à Christ, appartiennent à Christ, parce qu'ils ont désormais comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous, en tant que chrétiens, un lien avec Christ, une relation avec lui. Nous sommes tous les membres d'un même corps. Il n'y a pas plusieurs corps dans l'Église. Il n'y a pas plusieurs corps dans l'Église. Pas comme tout à l'heure l'exemple au moment où on a séparé la chenille. Il n'y a pas plusieurs corps dans l'Église, il n'y en a qu'un. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plusieurs sauveurs, il n'y en a qu'un. Et par le Saint-Esprit, nous sommes tous unis, liés à Christ. De telle sorte que quand Dieu nous voit, il se souvient que Christ a donné sa vie pour nous racheter. Quand Dieu nous voit, il se souvient que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous éviter la condamnation, pour que nous ayons gratuitement la vie. Et pourtant, nous savons, et nous l'avons chanté tout à l'heure, combien cela lui a coûté. Et tout à l'heure, lors de la Sainte Cène, nous aurons aussi l'occasion de méditer encore sur l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ, lié à lui. Et quand Dieu nous voit, il se souvient de ce que Christ a fait pour nous. Verset 13, pour arriver au bout de ce texte. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Alors c'est peut-être un petit peu curieux, cette fin de texte, nous avons tous bu à un seul esprit, mais on va prendre le temps d'expliquer. Et cette fois-ci, Paul s'inclut dans cette affirmation. Il dit, nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Quelle que soit l'origine des chrétiens, quelle que soit la condition sociale, tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Église de Saint-Maur, si nous voulons vivre l'unité que donne l'esprit, nous devons comprendre cette vérité, comprendre ce qu'est ce baptême dans l'esprit. Paul ne parle pas ici du baptême d'eau, même si les deux ne sont pas sans rapport. Mais il ne parle pas de cela. Il se sert en fait, encore une fois, d'une image qui avait déjà été employée par d'autres avant lui, à commencer par Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 7 à 8, et voici le message qu'il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste annonce que celui qui vient après lui, et nous savons que c'est Jésus, baptisera dans le Saint-Esprit. Et avant son ascension, eh bien, Jésus reprend cette image lorsqu'il dit à ses disciples, acte 1, verset 5, « Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Et nous comprenons, lorsque nous lisons la suite du texte des actes, que dans peu de jours, ça fait référence à la Pentecôte. Et c'est effectivement ce jour-là que Jésus répand son esprit sur ses disciples, qu'il constitue de cette manière-là un nouveau peuple. Et Pierre le dira bien dans son discours à Jérusalem, acte 2, verset 33. « Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il, c'est-à-dire Jésus, a reçu du Père l'Esprit Saint, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Et depuis ce jour, depuis le jour de la Pentecôte à Jérusalem, ce baptême dans l'Esprit a lieu pour chaque nouveau croyant. C'est le moment, ce baptême, c'est le moment où le chrétien, la chrétienne reçoit l'Esprit de Dieu. C'est ça que nous appelons le baptême dans l'Esprit. Il est, de manière imagée, plongé dans l'Esprit. Mais c'est juste de manière imagée, pour indiquer toute l'abondance de ce qu'il reçoit à ce moment-là. Rien de moins que l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul peut dire que nous avons tous, et donc il s'adresse à tous les chrétiens de Corinthe, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Ou bien, une autre image qui est aussi en rapport avec l'eau, nous avons tous bu à un seul esprit. Ces expressions renvoient à la même réalité, à la même expérience pour tous les chrétiens. Donc si vous dites un jour, j'ai été baptisé dans l'esprit, vous avez raison. Ou si vous dites, j'ai bu à l'esprit, vous avez raison aussi. Ce sont des images. Alors peut-être que pour nos contemporains, ça ne va pas trop leur parler. Ils vont penser que nous sommes un peu fous. Mais nous comprenons bien que c'est cela dont il s'agit. Et Paul ne s'arrête pas là. Dans ce verset 13, il insiste aussi sur un autre point. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Dans quel but? Pour former un seul corps. Baptisés dans l'esprit pour former un seul corps. Si tu es devenu chrétien ou chrétienne, c'est bien sûr parce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu et que tu as reçu cet esprit au début de ta vie chrétienne. Si tu es devenu chrétien ou chrétienne, c'est parce que Dieu voulait t'intégrer. Dieu voulait t'intégrer dans ce corps qui est l'Église. Si tu es devenu chrétien ou chrétienne, Dieu voulait t'intégrer dans ce corps qu'est l'Église. Et je ne me limite pas à la communauté de Saint-Maur. Je pense bien sûr à l'Église universelle, à l'ensemble des croyants de tous les temps et de tous les lieux. Si Dieu t'a donné son esprit, c'est pour que tu fasses partie de l'Église. Et cela veut dire que Dieu te donne un rôle, une fonction, un service dans ce corps qu'est l'Église. Et cette réalité, nous pouvons la vivre semaine après semaine au sein de notre famille en Christ à Saint-Maur. Et j'aimerais encore répéter cette question. Frères et sœurs, avez-vous pris conscience que Dieu vous a donné son esprit pour que nous formions un seul corps? Pour que nous vivions cette unité que nous ne trouverons pas en dehors de l'Église? Vous pouvez chercher longtemps, vous ne trouverez jamais cette unité ailleurs que dans l'Église. Parce que c'est l'unité que donne l'Esprit. Si l'Église fonctionne comme un corps, ça veut dire que toi qui es membre de ce corps, tu as vraiment un rôle à jouer parmi nous. Tu as vraiment un rôle à jouer parmi nous. Et chacun d'entre nous, avec ce que Dieu nous a donné, eh bien, on peut contribuer au bien de tous. C'est ce que Dieu avait prévu pour l'Église. Et même, je dirais que pour certains d'entre nous, eh bien, ce rôle, ce ministère que Dieu nous a confié dans sa grâce, eh bien, peut être bénéfique pour le reste du corps de Christ. Pas simplement pour l'Église de Saint-Maur, mais aussi pour le reste du corps de Christ. Je prends par exemple... Pour exemple, notre frère Yoxas, qui ce matin a prêché dans l'église One Heart de Montreuil, eh bien son ministère sert une autre partie du corps de Christ. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires, et heureusement. Je prends un autre exemple, puisque Samuel, tu es là. De la même manière, le ministère de Samuel en lien avec Audiovie, lorsqu'il prend le temps d'aller présenter différents outils à d'autres églises pour que les autres églises puissent bénéficier de ces outils d'évangélisation, et bien de cette manière-là, il sert le reste du corps de Christ. Tu n'as pas à te faire une place dans le corps de Christ parce que tu fais partie de ce corps déjà. Tu n'as pas à te faire une place. Tu fais partie de ce corps. Depuis le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu. Depuis le jour où tu as été baptisé dans l'Esprit. Et ce que tu as reçu comme une grâce, utilise-le et continue de l'utiliser pour la communauté de Saint-Maur. continue de le faire. Nous en avons besoin. Et utilise-le, si l'occasion t'en est donnée, pour le reste de l'Église universelle. Et si tu te demandes quel service pourrait être le tien parmi nous, eh bien tu peux en discuter avec l'un des responsables de l'Église. Et nous prierons en demandant à Dieu de te guider. Et dans tous les cas, nous pourrons avoir l'assurance que Dieu continuera d'accomplir tout en tous. Notre texte de 1 Corinthiens 12 n'était qu'une partie d'un développement qui est plus long, qui va jusqu'au chapitre 14. Et bien sûr, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a le chapitre 13, 1 Corinthiens 13, qui est bien connu, qui met en avant ce qui importe le plus dans tout ce qu'on a dit, l'amour. L'amour qui vient de Dieu. Parce que, en effet, servir sans amour, c'est à l'opposé de ce que Jésus a fait. Servir sans amour, c'est à l'opposé de ce que Jésus a fait, lui qui est notre modèle. Et pour récapituler, voici ce que nous devons retenir de 1 Corinthiens 12. Dans le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, nous servons les autres selon ce que le Saint-Esprit nous a donné par grâce. Nous ne sommes pas dans cette Église parce que nous l'avons méritée. Nous ne servons pas dans cette Église parce que nous l'avons méritée. Nous faisons partie de l'Église parce que Christ a donné sa vie pour nous. Et quand nous voyons les uns et les autres impliqués, soyons reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire quelque chose dans l'Église. Nous ne faisons pas des activités pour faire des activités. Mais lorsque nous voyons les autres services, soyons reconnaissants parce que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de faire quelque chose. Et depuis la Pentecôte, eh bien, les chrétiens peuvent vivre l'unité et la diversité sans que les deux réalités n'entrent en conflit. C'est la magnifique réalité du corps de Christ, où l'Esprit nous lie à Christ, où l'Esprit nous lie les uns aux autres. Et un jour, et je termine là-dessus, un jour, nous en verrons l'étendue de cette Église, de ce corps de Christ. Un jour, nous verrons l'étendue de cette Église et nous célébrerons ensemble la gloire de Dieu durant l'éternité. Amen. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons encore te bénir pour ta parole, te louer des magnifiques vérités qu'elle contient et que tu mets à notre portée. Merci parce que grâce à ton esprit, nous comprenons ces réalités, nous comprenons tout ce que cela a coûté à Christ qui a donné sa vie pour nous, pour que l'Église puisse exister. Et nous te remercions parce que, oui, à chacun de tes enfants, tu as donné ton esprit, afin que nous puissions tous ensemble former un seul corps. Alors accorde-nous de vivre cette réalité dimanche après dimanche, de continuer à pouvoir utiliser les cadeaux que tu nous as faits, des cadeaux que nous n'avons pas mérités, et nous nous souvenons que notre service, nous ne le méritons pas non plus. Mais quelle grâce de pouvoir te servir effectivement, et de pouvoir servir l'Église. Oui, accorde à chacun d'entre nous de pouvoir persévérer dans ce service avec amour. Parce que Christ nous a montré ce qu'était servir avec amour. Et merci parce que, oui, nous pouvons nous encourager les uns les autres à vivre ce corps. Bien que nous soyons des membres différents et nombreux, eh bien, en étant unis à toi, nous pouvons former un seul corps. Et ça, c'est le miracle que toi, tu peux faire. Et merci parce que cette réalité-là, de l'Église universelle, des croyants de tous les temps et de tous les lieux, eh bien, nous la verrons. Et nous pourrons te célébrer ensemble dans la gloire, à toi qui en es digne. Amen.